J'étais allée voir la pièce de théâtre quand j'étais petite. Après, je me rappelle plus trop de l'histoire. Je crois que c'était une petite fille
qui était totalement pauvre. Et il lui restait plus qu'une allumette, je crois, pour se réchauffer.
Elle mourait de froid et quand les allumettes, elles s'éteignaient, la salle s'éteignait et puis voilà.
Après, je me rappelle plus du tout de la suite.
C'est un peu violent parce que, genre à la fin, elle meurt de froid. Comme c'est triste, on a préféré oublier.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Jouons avec le feu. Je sais, c'est dangereux, mais là, c'est pour de faux. On va prendre une boîte d'allumettes et la manipuler dans tous les sens. La petite fille aux allumettes est notre héroïne de la semaine dans Barbatruc. Oui, c'est triste, c'est très triste. Mais je vous propose qu'on affronte sereinement ce conte d'Andersen sans trembler, car il permet de mettre des mots sur le chagrin et puis il fait une large place au merveilleux. Ça n'est pas rien tout de même, cette apparition magique de la grand-mère. Surtout, on en fait ce qu'on veut d'une histoire cruelle comme celle-ci. Et si on changeait la fin, ou même le début, ou le milieu, sacrilège ? Oh que non ! Les contes ne sont qu'un outil pour déployer les ailes de l'imaginaire. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Deux invités avec moi en studio, tous les deux très attachés à la petite fille aux allumettes. Bonjour Julien Salvia.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes comédien, chanteur, oui. Compositeur. Vous avez créé il y a quelques années une comédie musicale inspirée de ce conte d'Andersen avec Ludovic Alexandre Vidal. Alors on entendait à l'instant dans le générique une petite fille qui dit qu'elle a préféré oublier la petite fille aux allumettes tellement c'était triste. Se remettons un jour de ce conte.
Se remettons un jour de ce conte. Je l'espère. Moi, je l'ai découvert quand j'étais petit et oui, j'aimais beaucoup ce conte pour le coup, même s'il était très triste. Et je pense aussi parce qu'il était triste que je le trouvais très beau, avec des enjeux dramatiques très forts. Oui, je pense qu'on se remet de ce conte et je pense qu'il nous aide à nous développer aussi et à apprendre ce qu'est la mort. Comme la petite fille l'a dit, ça parle de la mort et c'est vraiment le centre de l'histoire.
Est-ce votre conte préféré ?
C'est un de mes contes préférés. Et juste pour la petite chose, j'ai aussi coécrit avec Anthony Michino. Mmh. C'était juste pour dire parce qu'il n'y avait pas que Ludovic Alexandre.
Auteur du livret, oui, bien sûr.
Auteur du dialogue. Mmh.
Bonjour Valentine Gobi.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes écrivaine pour les enfants et pour les adultes. Murène est votre dernier roman pour les grandes personnes chez Actes Sud. L'anguille en est en quelque sorte sa déclinaison pour les enfants chez Thierry Magnier, édition. Le récit d'une amitié puissante entre deux enfants différents dans un collège. Est-ce que vous puisez, vous, dans les contes pour écrire vos histoires, Valentine Gobi?
Ah, complètement, parce que les contes sont des histoires de métamorphose. Mmh. Alors, elles fonctionnent plus ou moins, mais Murène et l'anguille, ce sont des histoires de métamorphose, puisque ce sont des personnages à qui il arrive une chose terrible et qui vont, grâce finalement à cette tragédie, se transformer, se métamorphoser et devenir eux-mêmes. Donc, moi, j'adore en fait cette espèce de travestissement que les contes proposent et qui nous force à nous imaginer autrement.
Donc vous ne dites pas que La petite fille aux allumettes est une histoire très triste, par exemple?
Absolument pas. Moi, au contraire, je la trouve lumineuse. Je suis parfaitement d'accord avec Julien sur la place centrale de la mort. Mais il y a un autre sujet central pour moi dans La petite fille aux allumettes, c'est l'imagination.
Hans Christian Andersen a vécu au 19e siècle. C'est un écrivain danois, l'auteur du Vilain Petit Canard, de La Petite Sirène, de La Princesse au Petit Pois, de La Reine des Neiges et donc de Cette Petite Fille aux Allumettes. On va écouter cette histoire pour nous y plonger. Voici le début, lu par un enfant, extrait d'une émission de France Culture, Les Pieds sur Terre.
Il faisait un froid terrible. Il neigeait et il commençait à faire nuit. Il faut dire que c'était le dernier soir de l'année. La veille du jour de l'an. Dans ce froid et cette obscurité, une petite fille pauvre marchait dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle portait dans un vieux tablier une quantité d'allumettes et elle en tenait un paquet à la main. Personne ne lui avait rien acheté de toute la journée. Les lumières brillaient aux fenêtres et le fumidoir rôti se répandait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Elle s'assit et se blottit dans un coin entre deux maisons. Elle avait replié ses petites jambes sous elle, mais elle avait encore plus froid. Et de toute façon, elle n'osait pas retourner chez elle. Elle n'avait pas vendu d'allumettes, son père la battrait. Et du reste, il faisait froid chez elle aussi. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, comme une petite allumette aurait pu leur faire du bien. Si seulement elle pouvait en tirer une seule du paquet et la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts. Elle en tira une. Comme elle brillait, comme elle brûlait. C'était une flamme chaude et claire, pareille à une petite chandelle. Et elle la protégeait de sa main.
Quel joli talent d'interprétation, extrait d'une émission de France Culture, Les Pieds sur Terre. Alors le décor est planté, Valentine Gobi. La scène se passe en hiver, par un froid mordant. L'hiver convoque le fantastique, le merveilleux, la peur. C'est une saison riche d'imaginaire.
Ah oui, absolument. Il y a un livre magnifique de Claudie Hutzinker qui s'appelle Les Grands Cerfs et qui raconte l'affût des cerfs dans la neige. Et elle dit que la montagne a un talent aigu pour la narration. Et la montagne au sens de la neige, bien sûr, parce que la neige cache, dissimule, mais révèle aussi. Et le froid, c'est aussi à la fois un engourdissement et un aiguisement aussi très fort de certains sens. Alors moi, dans ma traduction, qui n'est pas tout à fait la même, qui est celle de Gallimard, la première phrase, c'est « il faisait atrocement froid ». Et donc, on est tout de suite dans la démesure. C'est pas n'importe quel froid, c'est atrocement froid. C'est-à-dire qu'on sait que quelque chose d'extraordinaire va arriver, puisque ça n'est pas un froid d'hiver de pays tempérés. On voit tout de suite qu'on est dans l'exagération.
On serait peut-être à Copenhague, la ville d'Andersen.
C'est bien possible, mais alors moi, j'ai pas souvenir d'hiver aussi rude à Copenhague, mais l'univers des contes, c'est aussi celui de l'exagération.
Que ressentez-vous, Julien Salvia, à l'écoute du début de cette histoire?
Comme disait Valentine, c'est assez merveilleux parce qu'on s'imagine cet univers assez feutré de la nuit, de l'hiver, de la neige qui tombe. Et c'est vrai que ça convoque l'imaginaire très vite. Et c'est vrai que c'est très inspirant comme univers.
Je remarque tout de suite que la petite fille n'a pas de prénom.
Alors, ce n'est pas le cas, par exemple, dans notre adaptation.
Comédie musicale, vous l'avez appelée Emma.
On l'a appelée Emma, tout à fait. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas de prénom dans le conte. Et je pense que c'est pour dire c'est une enfant parmi les autres qui vit cette souffrance, mais c'est une enfant parmi tant d'autres.
Elle n'a pas de prénom et ça la rend universelle, Valentine Gobi?
Ouais, c'est le principe même du conte, ça c'est la vieille prof de collège qui parle, qui a adoré les contes pour ça, c'est leur atemporalité, leur universalité. Il n'y a pas seulement pas de prénom, il n'y a pas de lieu.
Le petit canard non plus?
Mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'époque, c'est toujours le même temps de narration qui est utilisé, qui est un espèce d'imparfait de continue. Ça pourrait très bien se passer dans un pays très pauvre aujourd'hui. Moi j'ai travaillé avec des enfants des rues en Asie, cette histoire peut exister absolument aujourd'hui pour de vrai. Et donc c'est ça qui est extraordinaire dans le conte, c'est que il franchit les limites de la géographie et de l'histoire qui en fait un classique, oui.
Vous parlez de votre expérience humanitaire, Valentine Gobi. Quand on entend ce récit d'enfant très pauvre qui vit dans la rue, on se dit, est-ce que l'ambition, c'est pas aussi de susciter l'empathie chez le lecteur, chez le jeune lecteur en particulier?
Je pense, oui, évidemment, que c'est toujours le cas. Ce qui est assez fort, finalement, là, dans ce personnage aussi, c'est que, et moi, je le relis, en effet, à l'expérience que j'ai eue des enfants des rues, c'est que voilà une petite fille qui n'a rien. Elle est affamée, elle a froid. Les pantoufles qu'elle a, c'est pas les pantoufles de verre de Cendrillon, c'est des pantoufles toutes pourries qui sont le contraire de la chaussure, en fait, hein, vraiment. Donc, elle a rien. Et pourtant, elle est très vivante. Elle est très vivante, elle a des rêves, elle a des fantasmes, elle a du désir. Il y a quelque chose là qui ne relève pas de l'abandon. Et je pense que chez les enfants, il y a cette capacité et cette reconnaissance chez l'autre aussi, de cette pulsation de vie qui est extraordinaire, même dans le dénuement total. Une espèce de volonté de survie, quoi. Elle n'est pas à moitié vivante, alors que tout le texte nous la montre comme complètement dépouillée de ce qui fait le confort, l'aisance, le bien-être.
Cet enfant a de la ressource. Elle a une boîte d'allumettes, Julien Salvia.
Tout à fait. Et d'ailleurs, elle va craquer ses allumettes pour se réchauffer. Mais c'est aussi ça qui va lui permettre de partir dans son imaginaire.
Le jour, je fais des efforts. Hélas, quand la ville dort, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour, je bats les records. Mais quand change le décor, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là ça cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là, ça cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer de moi. Le jour je suis matador, hélas la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore, hélas quand la nuit me mord. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là, ça cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là, ça cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer de moi. Ah, je voudrais que ma tête là, ça cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer de moi. Se jouer de moi. C'est jouer de moi. C'est jouer de moi.
C'était Clou sur France Inter. Il était une fois une émission du dimanche préparée par Mao de Butler et Anne-Sophie Dazard. Barbatruc réalisée par Christophe Imbert avec Philippe Duclos à la technique. Et la programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert.
Barbatruc, Dorothée Barba.
On craque pour la petite fille aux allumettes cette semaine. Valentine Gobi, romancière, et Julien Salvia, acteur et compositeur, sont mes invités parce qu'ils aiment beaucoup, tous les deux, ce conte d'Andersen. On a écouté tout à l'heure le début de l'histoire. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, la petite fille, pour se réchauffer, craque l'une des allumettes qu'elle était censée vendre. Et là, apparaît un grand poêle qui la réchauffe. Mais l'allumette s'éteint et le poêle disparaît. Alors elle en craque une autre et surgit un festin. Une table dressée avec une grosse oie rôtie. Encore une allumette et cette fois c'est un sapin de Noël qu'elle voit, magnifique sapin décoré de guirlandes et au pied duquel trône plein de cadeaux de toutes les couleurs. La suite et la fin, la voici avec un livre audio. C'est la comédienne Brigitte Fosset qui nous fait la lecture.
Il s'arrêta un peu plus loin et gratta à nouveau une allumette sur un mur. Qu'allait-elle voir encore d'extraordinaire? Sa grand-mère apparut dans un éclair de lumière. D'un bond, la fillette courut vers elle, se pendit à son cou et l'embrassa tendrement. « Grand-mère, emmène-moi avec toi. Tu ne vas pas disparaître comme le poêle, l'oie rôtie et le sapin de Noël, dis. Je t'en prie, » chuchota la fillette en serrant la vieille dame dans ses bras. Mais l'allumette allait bientôt s'éteindre.
« Non !»
hurla la fillette, allumant tout le paquet. Et sa grand-mère resta près d'elle. Les allumettes flambaient et répandaient une lumière éclatante, plus belle encore que celle du soleil. La fillette regardait sa mamie avec des yeux brillants d'amour. Elle ne se quitterait plus jamais. Elles resteraient ensemble pour toujours. La grand-mère regarda tendrement la petite fille et lui fit un grand sourire. Elle la prit dans ses bras. Ses malheurs étaient terminés à présent. Ainsi, serrées l'une contre l'autre, elles s'envolèrent doucement. Elles s'élevèrent avec grâce et filèrent dans la nuit noire. La fillette se sentait légère. Sa tristesse avait disparu, comme par magie. Là où elles allaient, il n'y avait ni froid, ni faim, ni mal. C'était le royaume des anges. Elles allèrent plus haut, toujours plus haut, et rejoignirent les étoiles. Désormais, elles étaient auprès de Dieu. Le lendemain matin, les passants les plus matinaux découvrirent avec horreur une petite fille étendue dans la neige. C'était la petite fille aux allumettes. Elle était morte de froid. Sur son visage, un sourire d'ange se dessinait. « Pauvre petite !» s'écrièrent les passants.
Quelle tragédie horrible! Quel monstre a pu laisser faire ça? Mais la petite fille était bien heureuse maintenant. Le bon Dieu et sa grand-mère veillaient désormais sur elle.
Notre réalisateur Christophe Imbert est en larmes, mais on a l'habitude, hein, c'est à chaque fois comme ça. Lecture de Brigitte Fossey, c'était un extrait de livre audio. Est-elle mystique, la fin de cette histoire, Valentine Gobin, d'après vous?
Dans les mots, oui. Dieu, le royaume des anges, bon, on est au 19e siècle aussi, hein, donc pour le coup, il y a un contexte quand même culturel qui est lisible dans le conte. Maintenant, la symbolique pour nous aujourd'hui doit dépasser cette mystique, en fait. Il me semble que ce qui est très fort là, c'est que la petite fille, en fait, fait un choix que nous pourrions juger étrange. Elle demande pas d'aide. Elle tend pas la main. Dans tous les contes, il y a des alliés, il y a des gens qui viennent au secours de Cosette, qui est peut-être son pendant chez Victor Hugo. Eh bien, il y a Jean Valjean, il y a des complices autour qui viennent la secourir et elle ne le demande même pas. C'est-à-dire qu'il y a un renoncement volontaire. Le choix, en fait, d'abandonner quelque chose qui est trop lourd pour elle. On devine qu'elle est maltraitée à la maison, en plus de la faim et de la misère. Et ça se fait sans tristesse. Et c'est peut-être ça qui est très difficile à accepter quand on lit en général des contes d'Andersen qui sont tragiques profondément. Et celui-ci en particulier, le mot cadavre, le mot mort, plusieurs fois écrit, ne nous console pas. Et nous demande d'accepter, en fait, ce qui se passe comme un choix, qui n'est pas seulement le choix d'un salut, qui n'est pas un choix religieux, le choix d'une vie autre, mais qui est aussi le choix d'arrêter la souffrance.
Elle baisse les bras, la petite fille aux allumettes.
Non, c'est pas comme ça que je le vois. Elle choisit autre chose. Elle craque elle-même ses allumettes. Elle choisit d'aller au bout de ce paquet d'allumettes qui est sa seule ressource en conscience.
Julien Salvia, alors évidemment je m'adresse là aux comédiens, les hallucinations, les apparitions magiques à chaque allumette craquée, est-ce que ce ne seraient pas des représentations théâtrales finalement?
Ah bah, complètement, parce que en fait tout se passe dans sa tête, dans ce conte finalement, il se passe finalement pas grand chose dans la réalité, puisque c'est juste entre guillemets bien entendu, mais c'est une petite fille qui ne fait que mourir dans le froid, mais tout ce qui se passe, toute l'action se passe dans sa tête. Et oui, c'est très théâtral. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans notre spectacle, on a fait le choix de faire que l'action se passe tout dans sa tête. Toute l'aventure se passe dans sa tête.
Bah, ça change tout.
Complètement. Mmh. Ça change tout, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'imagination peut sauver et peut donner une vision plus positive de la vie. Et c'est ça qui est fort.
Écoutons des enfants et des ados. Juliette Proutot a promené son micro dans les rues de Paris cette semaine. Première question, évidemment. Que penser des histoires qui finissent mal, en général?
Moi, je préfère que ça se termine bien. Enfin, parce que souvent, on les raconte avant de dormir. Et si, avant de dormir, on te dit « Oh, elle est morte !» C'est pas la meilleure des choses pour bien dormir.
En fait, quand t'es à notre âge, vaut mieux nous raconter qu'à la fin, elle meurt. Oui. Parce que, de toute manière, à notre âge, nous dire « À la fin, tout va bien se terminer », ça sert plus à rien.
12 ans.
On sait bien qu'à la fin, ça va pas forcément bien se terminer. On commence à voir les choses de la réalité. Mais quand t'es petit, vaut mieux te rester dans ton rêve, dans tes imaginations.
Oui,
c'est... Et dans le fait que tu auras une vie de princesse et que plus tard, tu dirigeras la France. Et
maintenant, moi, je préférerais qu'on me dise vraiment la vérité, comprendre ce qui peut se passer dans la vie, qu'il y a des personnes comme ça qui meurent. Et voilà.
À partir d'un moment, il y a un âge où ta mentalité change et tu commences à voir les choses extérieures différemment. Et... À un moment, ça sert plus à rien de te mentir. C'est comme quand tu vois ton père te mettre l'argent de la petite souris sous ton oreiller, ça sert plus à rien qu'il te dise qu'elle existe.
Même le Père Noël.
Bah oui, faut voir la vie en face. Faut pas voir que comme si la vie elle était illuminée. Enfin, pas comme si il y avait que du bien.
Enfin, parce que l'histoire qui finisse mal, c'est... j'aime pas trop, parce que sinon, dans l'histoire, ils sont pas bien.
Parce que ça me fait un peu peur, les histoires qui se finissent pas bien.
Avant, quand on m'avait raconté la histoire pour la première fois, je pensais que ça se passait vraiment dans le monde, à des endroits. Et donc ça me faisait un peu peur que ça arrive un jour à moi aussi.
Voilà, merci à ces enfants pour leur précieuse lucidité. Valentine Gobi, il s'agit d'apprivoiser la mort.
Ah oui, bien sûr, c'est ça. C'est souvent ça dans les contes. La métamorphose est une mort. Je disais un petit peu en aparté tout à l'heure à Julien, mais on meurt toute la vie. Pas seulement parce qu'en continu, nous marchons vers cette fin, mais parce que nous nous transformons tout le temps pour nous adapter à des circonstances qui ne nous attendent pas et qui nous demandent de faire un effort aussi pour rester vivants et avoir une place dans le monde. Là, c'est la fin de ce processus de métamorphose dans la petite fille aux allumettes, c'est que ça n'est plus possible, voilà, elle est au bout. Mais oui, bien sûr, la mort est au centre, je pense, de tous les contes. Et quand ça me fait rire, j'entends les enfants dire « moi, j'aime pas les histoires qui finissent mal, mais nous sommes une histoire qui finit mal, en fait ». Et on n'est pas obligé, pour autant, de faire la tête pendant tout le trajet. On sait ce qui nous attend.
Oui.
Mais on peut aussi décider d'en faire quelque chose et de mettre de la lumière sur ce chemin-là.
J'espère que tous les parents ont écouté cette phrase pour la répéter à l'envi. Fais pas la tête pendant tout le trajet. Vous citez un extrait des Métamorphoses d'Ovide en exergue de Murène, votre dernier roman, Valentine Gobie. Tout s'écoule et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive. Ce que nous fûmes hier ou ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons plus demain.
Mais c'est toute l'histoire du vivant. Mmh. Et c'est Darwin, en fait, hein, qui est aussi la tutelle de ces romans-là. Mais c'est merveilleux d'être capable de transformation. Et ça n'est pas mal, et ça n'est pas désastreux aussi de reconnaître qu'on n'en est pas toujours capable.
Julien Salvia, dans l'adaptation en comédie musicale que vous avez coécrit de cette histoire, La petite fille aux allumettes, est-ce qu'elle meurt à la fin?
Alors, tout à fait, elle meurt.
Mais c'est beaucoup moins triste.
Oui, on a essayé de traiter ça avec de l'euphémisme, un petit peu, parce que je trouve ça toujours plus beau émotionnellement que faire quelque chose assez pathos. Et du coup, oui, en effet, on voit très vite son âme et le corps de la petite fille qui se dissocient. Et au final, la petite fille continue à vivre. Parce que ce qu'on veut dire, nous, dans cette histoire, la morale, c'est que la mort est le prolongement de la vie et que jamais rien ne meurt.
Jamais rien ne meurt, c'est dans les paroles de la chanson finale,
oui,
d'ailleurs, du
tout
spectacle.
Tout à fait.
Alors, est-ce une histoire pour les enfants? Question importante. Vous pensez bien que notre reporter a posé cette question aux premiers concernés, en tout cas à ceux et celles qu'elle a rencontrés.
Moi, je la trouve quand même assez
Oui, c'est vrai.
Mais moi, je trouve un peu glauque. Après, il raconte que dans la réalité, tout se termine pas très bien. Enfin, les choses ne se terminent pas toujours bien.
La morale de l'histoire, en fait, c'est de travailler à l'école. Comme ça, on a un travail et on reste pas dans la rue.
Oui, mes parents me disaient plus des contes de fées quand j'étais petite que la vraie vie. Enfin.
Traumatiser l'enfant aussi. En soi, je trouve ça bien parce que ça nous montre qu'il y a aussi des gens qui sont dans le désespoir un peu, et qui ont pas de chance et qui sont un peu oubliés par la société. Et je pense qu'ils devraient être plus aidés.
Enfin, je pense petite, si on m'avait raconté cette histoire, j'aurais été ah mince, c'est triste. Mais maintenant, je réalise que c'est vraiment horrible. C'est horrible comme histoire.
Non, mais en fait, c'est comme les trois petits cochons. On nous a tous raconté la version où à la fin, ils vont tous dans la maison de briques et ils font cuire le loup. Mais en vrai, à la fin, ils meurent tous.
Même Cendrillon, à la base, je crois, il y avait les sœurs qui devaient se couper un bout du pied pour la chaussure entre. Sauf que, en fait, c'est Disney qui a enjolivé la chose.
Tout le monde s'est rendu compte qu'en fait ces contes, bah, c'était pas du tout pour enfants, enfin pas adapté, parce que quand tu nais, c'est-à-dire que tu vas être pauvre et finir par mourir, bon bah ça donne pas vraiment des bons plans de vie. Du coup, tout a été adapté et on nous a tous fait des fins heureuses.
Alors, ça donne pas vraiment des bons plans de vie. Merci pour cette pépite à cet enfant. Comment la contredire, Julien Salvia? Ça donne pas vraiment des bons plans de vie, la petite fille aux allumettes.
Je retiendrai surtout ce qu'un enfant a dit, c'est que ça permet aussi de voir que certaines personnes sont dans le besoin, et ça permet aussi d'ouvrir les yeux là-dessus et de dire que des fois, ça serait bien de regarder pas que chez soi et de voir comment on pourrait aider ces personnes qui sont dans le besoin. Et je trouvais que cette phrase très 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 lucide de la part de cet enfant. Et puis je trouve que ça permet aussi aux enfants de leur ouvrir les yeux là-dessus.
Valentine Gobie, cet enfant qui dit que ça nous apprend à bien travailler à l'école, ça vous a fait bondir?
Quelle horreur, mon Dieu. Je vois pas beaucoup l'école n'était pas obligatoire à l'époque, il faut aussi le dire à cette petite fille, hein. Donc si elle vend des allumettes dans la rue, c'est aussi qu'on n'était pas obligé d'y aller. Donc, non, mais je pense que ce qu'elle veut dire là, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, bien entendu. Mais là, la petite fille dont on parle est une victime. La seule chose qu'elle fait librement, c'est de craquer ses allumettes. À la maison, visiblement, elle est le jouet de parents qui l'exploitent. Elle reçoit pas de tendresse, aucun soin à l'extérieur. Ça, c'est pas l'école. Mais peut-être que c'est la société. Peut-être que ce qu'on veut dire derrière, il faut bien travailler à l'école, s'il faut que la société s'occupe de ses enfants. En tout cas, elle choisit de s'occuper d'elle-même d'une manière qui peut paraître, choquante et douloureuse, mais ça n'est pas, c'est pour ça que je pense que ça n'est pas un renoncement. Donc, travailler à l'école, c'est très bien, c'est très important, mais ça n'a pas de rapport avec la petite fille aux allumettes.
On aimerait qu'elle reconnaisse qu'elle est elle-même une victime et qu'elle demande de l'aide.
Bah oui, c'est pour ça que j'évoquais Cosette tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut accepter aussi... On a beaucoup de mal dans le monde dans lequel on vit à accepter l'abandon. Alors en ce moment, par exemple, on est quand même dans une crise sanitaire où le sanitaire, la santé, le fait d'aller bien biologiquement est placé au premier plan. Le bien-être, la joie, le plaisir, l'amour, le rêve apparaissent comme secondaires. Être vivant à tout prix, est-ce que c'est vraiment désirable?
Finalement, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'échappe par le rêve.
Oui. Mais elle s'échappe vraiment, c'est-à-dire que ça n'est pas une métaphore pour moi religieuse ou symbolique. Je crois qu'elle s'échappe vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ce qui est plus qu'un fantasme, qui est une décision. Ouais.
Et elle s'échappe avec sa grand-mère. On va parler dans un instant de ce personnage très important de l'histoire. Ce sera juste après Baccar sur France Inter. Voici un extrait de son nouvel album, un artiste français qui chante en anglais « First Time ».
Une émission de Dorothée Barba sur France Inter.
Passe-moi les Alouf, ça sonne pas mal. La petite fille aux Alouf au programme de Barbatruc cette semaine. Nous nous penchons avec mes invités sur la petite fille aux allumettes. L'écrivaine Valentine Gobi et le comédien-compositeur Julien Salvia sont mes invités. Alors la petite fille a craqué toutes les allumettes. Ça a donné lieu à des apparitions magiques et notamment sa grand-mère adorée. Tâchons de sublimer la tristesse parce que oui, cette histoire est triste, mais l'apparition de la grand-mère illumine ce conte d'Andersen. L'occasion était trop belle. Notre reporter Juliette Proutot a demandé aux enfants et aux ados qu'elle a rencontrés de nous parler de leurs grands-parents.
Les parents, souvent, c'est plus éducatif et les grands-parents, c'est plutôt du genre on s'amuse plus.
Ben en fait, on a moins d'obligations, on a plus de liberté avec nos grands-parents.
Et franchement, moi j'ai beaucoup moins honte avec ma grand-mère qu'avec mes parents.
Moi aussi.
Je leur parle de tout, j'en ai rien à faire.
Et mon grand-père qui habite à Toulouse, qui était espagnol, il m'apprend des choses sur l'Espagne. Et aussi, comme il était médecin d'astronaute, eh bien, il m'a appris des noms d'astronautes. Maintenant, il est médecin de prison. Il m'apprend aussi comment des techniques d'évasion ont des voleurs. Sinon, il y en... Et j'aime bien aussi quand il m'apprend pourquoi, quand on mange trop vite, on a mal au ventre.
Et c'est vraiment différent parce que nos grands-parents, ils disent... ils peuvent critiquer nos parents puisque c'est leurs enfants en soi. Ils peuvent dire, oh là là, ta mère, elle est dure, etc. Et ils sont vraiment... Il y a beaucoup moins de contraintes avec eux, en fait.
Ils font tout pour te faire plaisir. Ils veulent juste que tu sois heureux. C'est vraiment pas bien ce que je vais dire, mais moi, parfois, je profite de mes grands-parents pour qu'ils m'achètent des choses que mes parents, ils veulent pas qu'ils m'achètent.
Oui, en fait, c'est parce que les grands-parents, c'est pas vraiment tes parents. Et souvent, ils sont pas vraiment responsables de ton éducation.
Tes parents, tu vis avec eux. Donc, en fait, tu vas avoir leur avis en permanence.
Au bout d'un moment, t'en peux plus.
Voilà, en fait, alors que tes grands-parents, tu les vois pas tout le temps. Du coup, comme t'as leur avis très peu de fois, et ben, tu le prends beaucoup plus en compte, j'ai l'impression.
Sinon, aussi, j'aime bien mes... grands-parents du côté de ma maman, parce qu'en fait, eux, ils sont gentils, ils ont une ferme et des animaux, et j'adore là, passer du temps avec les animaux. Il y a aussi plein de chats qui ont des bébés, et j'adore les bébés chats.
En fait, j'ai l'impression qu'ils se disent, mes enfants, ils n'ont pas vraiment été comme je voulais, enfin, il y avait certains points, donc je vais tenter sur mes petits-enfants, on ne sait jamais.
On est les cobayes.
Je peux rajouter quelque chose? Ils nous offrent des cadeaux, et souvent, ma grand-mère nous envoie un gros colis à peu près grand, un demi-mètre de long, donc il y a toujours plein de cadeaux dedans. Aux anniversaires, il y a des cadeaux pour tout le monde, donc il n'y en a pas que pour celui qui a son anniversaire.
Voilà, coup de chapeau à ce grand-père couteau suisse qui lui apprend comment fonctionne la digestion, mais aussi à s'évader de prison. Valentine Gobi, est-ce que c'est pas la meilleure manière de lire ce conte, finalement, un éloge des grands-parents?
Oui, ou un éloge de l'évasion, parce que s'évader de prison, c'est exactement ce qu'elle fait, cette petite fille. Mais un éloge des grands-parents, je pense que la vision est très très juste, hein, celle des enfants, c'est la présence consolatoire des grands-parents, qui n'est pas du tout la présence éducative des parents. Ceci dit, là, dans le conte d'Andersen, les parents n'ont que le mauvais rôle, puisque ce sont des parents maltraitants. C'est pas seulement qu'ils ont l'autorité, parce qu'être parent, c'est aussi prendre soin, et ils ne le font pas. Donc, il y a la valeur refuge, c'est vrai, de la grand-mère. D'ailleurs, dans toutes les illustrations de ce conte d'Andersen, c'est vraiment une grand-mère assez stéréotypée qu'on dessine. Hein. Un peu corpulente, avec des lunettes, un beau grand chignon, un giron généreux, où la petite fille aux allumettes va s'engouffrer et se reposer. Donc oui, c'est la vision de l'acceptation complète et de la consolation.
Julien Salvia, à quoi ressemblait-elle la grand-mère dans votre adaptation en comédie musicale?
Alors dans notre adaptation, c'était une reine. En fait, quand la petite fille aux allumettes craquait l'allumette, elle arrivait dans un royaume enchanté. Et dans ce royaume enchanté, c'était la princesse et sa grand-mère était une reine. Pour la petite histoire, la reine est enlevée par le méchant de l'histoire. Et toute l'aventure se passe dans sa tête. C'est la petite fille aux allumettes qui doit craquer des allumettes pour revenir dans ce monde imaginaire et sauver sa grand-mère. C'est un peu la même histoire que dans le conte, sauf que tout se passe dans sa tête.
Vous transformez la grand-mère en reine, ça n'est pas anodin.
Non, c'est pas anodin, puisque justement, c'est la figure la plus positive que la petite fille a dans ce monde. Donc, bien sûr, elle l'érige au rang de reine, au rang de la personne la plus extraordinaire de son royaume imaginaire.
Quel est votre regard sur cette apparition magique de la grand-mère dans le conte d'Andersen?
Je pense que, parce qu'on dit que c'est un conte sur la mort, mais c'est aussi un conte sur le souvenir. En fait, le souvenir, c'est un peu la vie éternelle. Puisque tant qu'on se souvient des gens, les gens continuent à vivre. Donc je pense vraiment qu'en plus de parler de la mort, ça parle du souvenir, et ce souvenir est évoqué par cette figure très protectrice de la grand-mère.
Une affaire de souvenirs, Valentine Gobi.
Oui, ce qui est aussi frappant dans le conte d'Andersen, c'est que toutes les visions de la petite fille sont des fantasmes. Elle est dehors et tout ce qu'elle voit se passe dedans et est inaccessible. Hein. Il y a ce magnifique sapin, il y a cet âtre qui chauffe, il y a ce festin. Mmh. Voilà, ça n'est pas pour elle, ça n'est pas son univers. La dernière vision, elle lui appartient en propre. On peut l'appeler souvenir, on peut l'appeler réminiscence. En tout cas, c'est bien à elle, c'est bien quelque chose qu'elle produit elle-même et qui n'est pas inaccessible comme ces autres images-là qui montrent vraiment l'écart entre sa vie à elle et puis la vie bourgeoise et confortable de ces gens à Noël.
Alors, on va réécrire cette histoire maintenant, si vous le voulez bien. Je vais vous demander dans un instant à tous les deux quelles modifications vous apportez à ce conte d'Andersen. Il vous reste 2-3 minutes pour réfléchir. D'abord, la parole est aux enfants. On change quoi dans La Petite Fille aux Allumettes ?
Si on était dans une société de notre époque, peut-être qu'il y aurait une association qui l'aurait trouvé et qui l'aurait recueilli.
Ou sinon, il y aurait eu des posts sur Instagram avec, avec des campagnes et tout.
Hashtag la mort de France.
Avant que c'était l'été et que elle pouvait vendre les allumettes en se refroidissant en même temps. Comme ça, elle pouvait gagner aussi de l'argent.
Et après, il y a des riches gens qui habitent en face de chez elle, voient qu'ils sont pauvres et qu'ils leur donnent un peu d'argent à sa famille et à elle. Comme ça, elle peut déjà apprendre et voilà, tout ça.
Il y a quelqu'un qui vient l'aider et qui la ramène chez elle. Et après, ils vont porter plainte et contre le père. Ça, en vrai, c'est bien. Enfin, tu racontes ça aux enfants, ils comprennent qu'il parfois, il faut aller porter plainte quand ça va pas.
Ouais, non, mais sinon, ouais. Comme pas mal de contes, c'est elle se réveille. Et c'était juste un rêve. Mais ça, c'est la fin facile quand t'as pas d'installation.
Oui, ça, c'est quand
t'as
pas du tout.
Peut-être que aussi, il y a quelqu'un qui peut venir et l'adopter en quelque sorte et mettre le père en prison. Ça, c'est une très bonne idée.
Ah oui, oui.
Sauf par que contre, je trouve ça un peu simple. Tu dis, il vient, il l'adopte. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas du tout aussi simple. Il y a plein de papiers, il y a plein de oui. choses à faire. Des démarches.
Si on voulait créer du suspense, on pourrait dire qu'elle se réveille, mais qu'après on revoit son père et c'est le même, et qu'elle a rêvé de sa vie, mais on connaît pas vraiment la fin de sa vie.
Ah, ça, ce serait un peu.
Bah, en vrai, ça met du suspense et c'est pas trop joyeux.
Merci à notre reporter Juliette Proutot. J'avoue que ma modification préférée, c'est le changement de saison. Hein.
Ah,
on
oui.
dirait que ce serait l'été.
Ah,
et du coup, tout va mieux. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Julien Salvia, quelle modification préférez-vous dans toutes celles qui viennent d'être listées?
Bah, j'avoue que j'aime bien la punition, punir le père et la mère d'ailleurs de la maltraitance de la petite fille. Forcément, en plus, ça reste très très moral. Donc, ça serait même peut-être plus moral, j'ai envie de dire, que la petite fille survive, puisque elle n'a rien fait, c'est la victime. Donc oui, ce serait une fin qui serait peut-être moins triste et très intéressante. Aussi.
La judiciarisation de ce conte aussi est pertinente. Hein. On porte plainte et on met les parents en prison, Valentine Gobi.
Ou bien, on peut souhaiter à la petite fille aux allumettes de faire quelque chose de son imagination formidable et de devenir romancière, par exemple.
Mais ça peut être les deux.
Et de mettre son père en prison.
Bah, en plus.
Et d'être adopté par une famille formidable.
Ah, bah, ça serait formidable.
Et ce serait l'été.
Et ce serait l'été, oui.
Ou le printemps.
Le printemps, c'est bien.
Bon, dire que tout ça était un rêve, c'est vraiment trop fastoche, on est d'accord?
Ça serait un peu comme mentir au public ou au lecteur.
Et une fin un peu tindindin, ça donnerait quoi, Valentine Gobi? J'emprunte l'expression à l'un des personnages de votre livre. Hein. Une fin tindindin.
Une fin tindindin, ça serait que... Ça serait qu'un personnage extraordinaire descend du ciel, envoyé par la grand-mère, soulève la petite fille de terre et l'emmène dans un pays où il fait toujours chaud et où les parents sont toujours gentils. Non, en fait, ce qui est génial dans les contes, justement, c'est que ça peut pas finir bien, parce qu'il ressemble à la vie. Et quand je dis pas bien, c'est pas triste, encore une fois. Je trouve super qu'il n'y ait pas d'autre fin possible, en fait.
Vraiment ?
Ouais.
Mais est-ce que c'est sacrilège, d'après vous, d'imaginer d'autres fins?
On a tous
de s'approprier
droits.
L'histoire. Parce que, on entendait tout à l'heure les enfants qui pestaient contre cette modification apportée aux Trois Petits Cochons ou à Cendrillon. C'est vrai que certains contes, notamment par Disney, ont été édulcorés. Est-ce que c'est si grave?
En fait, moi, non, rien n'est grave. On a le droit de tout inventer. On se plagie soi-même tout le temps dans les contes, puisqu'on raconte tout le temps la même histoire, finalement, avec d'autres personnages et à d'autres époques. Ce qui m'ennuie un peu, c'est quand on imagine qu'il faille édulcorer, finalement, les messages profonds de ces contes, et en particulier ceux d'Andersen, qui font vraiment face à la tragédie sous toutes ses formes, parce que les enfants ne pourraient pas l'entendre. En tant que professeur, j'ai eu beaucoup à travailler sur ces textes-là avec des élèves.
Quel âge ?
En sixième, dès la sixième, CM2, sixième, y compris d'ailleurs sur des textes beaucoup plus difficiles comme les Métamorphoses d'Ovid. Quand je dis plus difficile, c'est pas seulement l'écriture, c'est sur le message. Et c'est un peu dommage parce qu'en édulcorant ces messages-là à cet âge, on sait probablement que l'adulte n'y reviendra pas. Et donc qu'il n'aura pas la chance de creuser en profondeur ce qui était la question qui était posée, parce que aucune réponse n'est apportée. C'est une question: qu'est-ce que c'est que l'être humain? Qu'est-ce que la finitude humaine? Pourquoi sommes-nous là? Des questions vertigineuses et magnifiques qu'on peut se poser à tout âge sans forcément en faire quelque chose de dramatique, en fait. C'est un espace, vraiment, pour se poser la question de ce qu'on est profondément, de nos identités, de ce que c'est que l'humanité. Et c'est dommage, à mon avis, simplement, de les amoindrir parce qu'on a peur, en fait, de la souffrance qu'on cause.
C'est vrai ce que vous dites, on les relit pas à l'âge adulte.
Ah,
donc quand on est passé à côté enfant, c'est perdu pour toujours.
J'ai réécrit par exemple la métamorphose de Daphné en arbre. Bon, c'est pas des contes, mais enfin ça y ressemble beaucoup, les métamorphoses d'Ovide. On trouve ça très joli, une femme qui se transforme en arbre et qui du coup se rend libre de son poursuivant. Bah en fait non, c'est une histoire de domination, de possession et de viol. Alors on n'est peut-être pas obligé de mettre ces mots-là pour des enfants de sixième. Par contre, l'histoire de la domination et de la possession, elle est centrale. Si on met de côté ces propos-là, alors on trahit complètement le propos d'Ovide. Et c'est dommage parce que dès la sixième, dès cet âge-là, ces questions-là se posent. Et ça n'empêche pas aussi de les traiter avec une certaine dose d'humour et de les relativiser. Mais je trouve qu'on appauvrit vraiment le texte initial.
Vous avez prouvé d'ailleurs, Julien Salvia, qu'on pouvait mettre de l'humour, de la fantaisie, de la poésie dans cette histoire tragique.
Ben, l'idée, en plus, comme c'est le conte dure 4 pages, mais nous, on devait faire un spectacle d'1h20.
Il fallait un peu broder autour.
Il fallait broder. Donc, en fait, c'est l'idée d'Anthony d'avoir fait toute l'aventure dans la tête de la petite fille. Et en effet, comme toute comédie musicale, il faut qu'on passe par des moments comme un roller coaster. Moi, je dis comme un roller coaster d'émotions. On doit passer par de la grande joie, de l'humour, puis de la profonde tristesse, puis on repasse à l'humour. Donc, en effet, on a inventé des personnages qui nous permettaient d'apporter cet humour, en particulier le personnage de la magicienne Madame Olga, qui amène cette dose d'humour dans cette histoire qui est triste au fond. Mais parce que justement, on est dans la tête de la petite fille. Donc, dans la tête de la petite fille, dans son imaginaire, elle l'imagine moins grave que la situation réelle qu'elle est en train de vivre.
Tout est affaire de regard. Valentine Gobi, je retiens cette idée que la petite fille aux allumettes devient romancière et que toutes ces apparitions qu'elle a vues grâce aux allumettes, elle en fait un nouveau roman à chaque fois. C'est le pouvoir de l'imaginaire.
Oui, mais peut-être qu'Andersen, c'est un peu la petite fille aux allumettes. Hein. Il n'a pas eu une enfance très heureuse. Il a vécu au Danemark dans des conditions difficiles. C'est devenu un conteur et un romancier magnifique. C'est lui.
Et chacun de ses contes, c'est une allumette.
Certainement.
Loser, c'était Balthazar sur France Inter. Il est grand temps de filer en librairie, rayon littérature jeunesse. Voici les prescriptions littéraires de Denis Chessou.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là, tu l'es, mon petit loup.
Eh bien, nous débutons par les aventures intersidérantes de l'ourson Biloute de Julien et Renaud Delmer aux éditions Grasset Jeunesse. C'est à partir de 8 ans. Kevin vit avec sa famille dans un village du nord de la France, entre les champs de betteraves et les pylônes électriques.
Une jolie maison en briques et une cheminée qui crache un panache de fumée blanche dans le ciel étoilé.
Et puis à la maison, il y a Biloute. Alors c'est un ours en peluche, pas ordinaire, hein, avec un fichu caractère et du courage à revendre. Quand il ne joue pas son rôle de compagnon de réconfort, Biloute vit sa vie.
L'ourson se frotte les pattes de plaisir. Ce soir, à la télé, passe sa série préférée, Les Envahisseurs de la Galaxie Fantôme. Trop cool!
Et puis le lendemain, en balade en famille et dans une fête foraine, surprise! Le marchand de frites s'extirpe de la caravane et enlève sa chemise.
Sa poitrine est couverte d'écailles violettes. Ses doigts ont des griffes. Il a une sale tronche d'iguane mal lunée.
C'est un homme lézard. Rapidement rejoint par un homme en tenue de chirurgien, le docteur Végaline. Et Biloute le connaît. Il l'a vu dans sa série préférée. Et là, ce n'est pas un personnage de fiction. Il est tout autant menaçant qu'à l'écran.
Voici l'arme absolue, la sauce Z, la plus diabolique de mes inventions. Avec son goût irrésistible, sa couleur inimitable, elle va réduire l'humanité en esclavage. C'est par la gourmandise que les terriens seront vaincus.
L'ourson Biloute est désormais le seul à pouvoir sauver l'humanité de l'emprise du docteur Végaline. N'écoutant que son courage et sa fureur, il sort de sa cachette et s'empare du flacon de sauce.
Rattrapez-moi cet ourson, abattez-le, pulvérisez-le, mais surtout bougre de manchot, n'abîmez pas ma bouteille, c'est notre seul échantillon.
Mais par chance, une moto s'arrête et l'aide à s'échapper. Et c'est pas n'importe qui, c'est le héros de sa série préférée.
L'ours ne revient pas. Au volant de la moto, se tient fièrement Lémi, le sauveur de l'humanité, les moustaches au vent, avec ses Santiago et son perfecto de cuir. Et Lémi est bien disposé à aider Biloute à sauver le monde.
Alors branchez les guitares, les aventures de Biloute font souffler un vent de rock sur vos lectures. Entre son héros grognon, son écriture échevelée et ses aventures rocambolesques, ce roman de jeunesse donc ne ressemble à aucun autre. Donc un roman jeunesse tonique et addictif, un livre pour les enfants qui rendra les parents voir, les grands-parents nostalgiques, les aventures intersidérantes de l'ourson Biloute, de Julien et de Renaud Delmer, aux éditions Grasset Jeunesse, c'est à partir de 8 ans. Ta peau contre la mienne est signé Rémi Courgeon, aux éditions Milan à partir de 7 ans. Là, c'est un western au féminin, qui est quand même assez rare, hein, depuis Calamity Jane.
Adieu frère cheval, frère aimé, nous avons grandi côte à côte, dormi dans le même foin. Adieu.
Un homme a tué le cheval de notre héroïne amérindienne.
Ma liberté faisait de l'ombre à sa bêtise.
La balle lui était destinée.
Sa peau, je la percerai à son tour.
Elle qui courait sur quatre jambes depuis son premier printemps, a réappris à vivre en portant sur elle le cuir de son cheval.
Ta peau contre la mienne. Retrouverai-je un jour un frère aussi fort que toi ?
De la colère à la tristesse, avec une soif de vengeance intacte.
De l'homme, je garde en mémoire l'odeur infecte de sueur et de haine. Le visage de ce mercenaire est placardé partout dans la région.
Alors notre sauvageonne vit avec un arc, car chaque village est un nid de crotale. Elle détache une jument maltraitée, la soigne, l'orne de peinture de guerre et piste le tueur de son cheval aimé. Alors elle parcourt des déserts, elle sait lire les traces.
Elle doit faire vite, d'autres hommes veulent aussi sa peau.
Et elle voit enfin ce débris d'homme. Alors elle fait sauter son revolver d'une flèche et ne le tuera pas.
Ta vie crasseuse, je vais te la laisser. Tu vas dériver sur le fleuve dans cette barque, loin, très loin.
Format cinématographique, hein, renvoyant les jeux d'ombre et de lumière, dessiné à la mine de plomb, encre de Chine et pastel sec en noir et blanc, et puis colorisé à l'ordinateur. Cet album montre une fille déterminée, fière et interroge notre lien aux animaux et à la nature. Nous sauver nous-mêmes en sauvant les animaux, nous dit en filigrane ce livre féministe, animiste, avec des villes fantômes, des saloons et des grands espaces. Ta peau contre la mienne, de Rémi Courgeon, édition Milan à partir de 7 ans. Merci à Xavier Pestulgia pour ses réalisations, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Et hop, on clique sur franceinter.fr à la rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?» pour retrouver les références des livres ici cités. Alors, je suis toujours avec Valentine Gobi, romancière, et Julien Salvia, comédien et chanteur. Nous nous sommes réchauffés grâce aux allumettes de la petite vendeuse d'Andersen. J'ai à présent une dernière question à vous poser. C'est une question rituelle dans Barbatruc. Quelle est l'odeur de votre enfance? Et je commence évidemment par vous, Valentine Gobi, fille et petite fille de parfumeur, vous qui avez grandi à Grasse.
Oui, c'est ça.
Quelle est l'odeur de votre enfance.
Je suis une caricature et donc j'ai beaucoup de choix quand on parle d'odeur d'enfance. Alors je vais vous parler de l'odeur d'usine en fait, qui est l'odeur dans laquelle baignait mon père toute la journée, des cuves à distiller.
Ça sent quoi ?
Ça sent très fort, c'est difficile à supporter parce qu'on distille des plantes, des mousses, des écorces qui ont évidemment une densité très forte. L'essence, ça sent pas... comme la fleur et comme la mousse et comme l'écorce, ça sent beaucoup plus fort. Ça sert à faire des parfums ensuite, on en met quelques gouttes et ce sont les mélanges qui font les formules olfactives. Et quand mon père entrait dans la maison, quand j'étais petite, jusqu'au deuxième étage, en fait, on percevait cette odeur qui montait, qui imprégnait ses cheveux, qui imprégnait ses costumes, qui variait un petit peu selon les plantes qu'on distillait à ce moment-là dans les cuves, mais qui prenait beaucoup d'espace, beaucoup de place, qui était tenace. Et je pense souvent à cette odeur comme on pense à celle d'un animal qui marque son territoire comme ça avec l'imprégnation de sa peau. Voilà, ça c'est l'odeur de mon enfance et curieusement c'est aussi l'odeur d'enfance de mon père puisque son père était parfumeur et nous avons donc vécu dans ces odeurs très fortes et très puissantes qui annihilaient toutes les autres.
Vous plissez les yeux en parlant, c'est une odeur difficilement supportable.
Qui peut être très désagréable, oui, parce que d'abord elle contraint les autres à l'anéantissement. C'est difficile d'exister soi-même à côté d'une odeur comme celle-là. Difficile de respirer parfois, hein, physiquement. Moi, j'ai été une grande asthmatique, mais c'est aussi des souvenirs très beaux. Je suis une petite fille qui a pris des bains dans des tonnes de roses et de jasmin, et ça, je crois que c'est un grand privilège.
À donner à tout le monde, en effet. Julien Salvia, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Alors moi j'en ai plein, mais si j'en choisissais une, je pense que ça serait l'odeur des pins dans le sud de la France et qui est liée un peu au sel de la mer. Toute cette odeur, quand on descend vers le sud, qu'on ouvre la porte de la voiture, et là, cette odeur est assez magique parce que elle me fait penser à mon enfance, elle me fait penser à la famille, elle me fait penser à tout ça, au bon moment en famille, c'est tous ces souvenirs qui me reviennent en tête.
Est-ce que vous parvenez à la convoquer là, dans votre nez, quand vous y pensez ?
Oui, complètement, tout à l'heure vous m'avez parlé d'odeur, tout de suite celle qui m'est venue en tête, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'elle m'inspire beaucoup de positif.
L'odeur des pins dans le sud de la France, ouais. Et l'odeur des usines à parfum de Grasse. Très beau mélange olfactif cette semaine.
C'est le sud quand même. Hein,
c'est vrai que c'est dans le sud.
C'est assez
vrai,
localisé. C'est merci beaucoup à tous les deux. Julien Salvia, quand revivra le spectacle vivant, vous remonterez sur scène. Quel projet pour la suite ?
On a le tour du monde en 80 jours.
En comédie musicale, encore.
En comédie musicale qui se jouait à Mogador juste avant la crise Covid et qui a dû s'arrêter malheureusement. Mais on espère que ça reprendra le plus vite possible.
Tom Sawyer également.
Tom Sawyer, tout à fait, qui était en tournée. Et qui aussi a dû...
Je croise tous les doigts et les orteils pour vous. Valentine Gobi, je recommande aux enfants à partir de 10 ans votre dernier roman jeunesse, édition Thierry Magnier, ça s'appelle L'Anguille. Et pour les adultes, chez Actes Sud, Murène. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Dorothée.
Bonne fin de journée et à bientôt sur France Inter. La semaine prochaine, nous commençons un cycle d'émissions spéciales consacrées à toutes les religions. Ce sera la Bible expliquée aux enfants. Dans un instant, l'œil du tigre. Vous savez qu'en France, il y a 67 millions de sélectionneurs. Philippe Collin vous propose une histoire des sélectionneurs de l'équipe de France de football.